Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter l'émission Esprit du livre qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récente ou moins récente qui concernent en tout cas la foi chrétienne, pas forcément directement mais parfois indirectement. Et à mes côtés le père Roger Willem qui commence par vous présenter un premier ouvrage d'Alexandre Jolien dont le titre est « Vivre sans pourquoi », paru aux éditions L'Iconoclaste au Seuil en mars 2015, donc tout récent.
Philosophe chrétien Alexandre Jolien s'est installé à Séoul, en Corée du Sud, pour approfondir sa foi en Dieu en pratiquant le zazen. Dans un nouveau livre, il raconte son voyage intérieur. Né en 1975, Alexandre Jolien a vécu 17 ans dans une institution spécialisée pour personnes handicapées physiques. Philosophe et écrivain, il est l'auteur d'une œuvre qui compte finalement un lectorat plus large. Depuis Éloge de la faiblesse, qui a reçu le prix de l'Académie française, et puis « Le métier d'homme » paru en 2002, « La construction de soi » en 2006, « Le philosophe nu » en 2010, et « Le petit traité de l'abandon » paru il y a 2 ans. Vivre sans pourquoi, quitter la dictature de l'après, se détacher du poids du « qu'en dira-t-on », oser un amour plus vrai, tout cela réclame un véritable art de vivre. Alexandre Jolien retrace un itinéraire spirituel qui l'a conduit à tout quitter pour s'installer avec sa femme et ses 3 enfants en Corée du Sud. Avec humour, il raconte comment il se met à l'école de Jésus et de Bouddha. Il confie ses doutes, ses désillusions, ses joies et les péripéties qu'il traverse et il livre ainsi des leçons apprises en chemin et l'enseignement lumineux qu'il en tire, un appel toujours plus fort à descendre au fond du fond pour trouver la paix, la joie et un authentique amour du prochain. Voici un passage du début de ce livre intitulé « Sous la protection du Bouddha et de Jésus ». La voie que j'emprunte ici n'est pas des plus faciles ni des plus confortables. D'un côté, les bouddhistes se plaignent que je ne sois pas assez bouddhiste, sans comprendre que je crois en un Dieu qui s'est révélé en la personne de Jésus. De l'autre, certains chrétiens me reprochent sévèrement d'emprunter des chemins de traverse en suivant les pas du Bouddha, me rappelant que Jésus avait dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Un jour, un jeune homme m'a complètement rassuré. « Dis donc, toi, t'es balèze? À mon avis, tu n'as aucun souci à te faire. Tu es protégé du Bouddha et de Jésus. Alors, tu n'as rien à craindre. » Oui, ce journal spirituel est une invitation à mettre en pratique une ascèse très concrète du corps, de l'âme. Et puis de l'autre, il invite le lecteur à prendre grand soin de soi. Ce qui est merveilleux chez Alexandre Jolien, c'est qu'il a su conquérir tour à tour la liberté de marcher, l'accès aux études, le bonheur d'être père, repoussant les limites que lui avait imposées à la naissance une infirmité motrice cérébrale et un certain regard sur son handicap. Rarement disciple de l'Évangile aura cherché avec tant d'opiniâtreté, passant sa foi, creuser de la plus radicale et la plus rude des ascensions et des ascèses, le zazen, allant jusqu'à s'installer à Séoul, où vit son maître spirituel. Dans ses 5 précédents ouvrages, Alexandre Jolien affirmait avec humour que la philosophie peut devenir notre sagesse quotidienne. Aujourd'hui, il montre dans son journal coréen que sa foi chrétienne en dialogue avec la tradition orientale est un travail d'abandon de chaque instant et un élan de gratitude sans cesse renouvelé. Voici un autre passage de ce livre merveilleux. L'amour pur, je l'ai découvert ce curieux soir où se sont mêlés larmes, chagrin, rire et joie. Augustin s'apprêtait à fêter son premier anniversaire, Augustin c'est son fils, au pays du matin frais, lorsque la sonnerie du skip a retenti. La nouvelle est tombée brutalement, ma belle-mère allait bientôt mourir. Après avoir écouté beaucoup et aussi pleuré, ma femme nous a rejoints à table. À la lueur d'une bougie, trois enfants, bouche bée, l'ont regardé. Et ces paroles, montées du cœur infini d'une maman, nous ont rassurés. « Maman est triste, très triste, mais maintenant, on va savourer le beau gâteau d'anniversaire d'Augustin. C'est ça le plus important au monde maintenant. » Qui dira la délicatesse, le don de soi, l'abnégation et le courage d'une mère? Cette joie tragique était notre manière de nous rapprocher de cette femme qui, à des milliers de kilomètres de nous, apprenait que le temps était venu pour elle de nous quitter. Lire Alexandre Jolien, c'est dépasser son angoisse, c'est s'oublier un peu soi-même pour accueillir la pensée d'un autre qui a vécu quelque chose d'essentiel. Il nous rappelle que les yeux qui s'arrêtent à la surface et qui jugent empêchent bien les miracles. Alors vivre sans pourquoi, s'arrêter de vouloir prouver, disons, quoi que ce soit, aimer le premier venu sans rien exiger de lui. Le premier venu, comme dans l'Évangile, le premier venu est aimé tel qu'il est, et chacun d'entre nous, par le Dieu auquel nous croyons, est aimé, c'est un premier venu, et il est chargé de toute la sagesse qui nous vient du sage par excellence, le Dieu qui sait savourer la vie et qui donne cette vie en abondance. Oui, lire Alexandre Jolien, c'est entrer dans une perspective de joie dans le quotidien de nos vies et faire de ce jour une fête. C'est possible.
Merci, Père Willem. Donc, je vous rappelle le titre du livre, « Vivre sans pourquoi » d'Alexandre Jolien, paru aux éditions du Seuil, collection L'Iconoclaste, en mars 2015, donc tout récemment.
Radio Grand Ciel.
Je vous parle à présent à mon tour d'un livre que la bibliothèque diocésaine vient d'acquérir, bien qu'il ne soit pas très récent, mais qui est important parce qu'il comporte une réflexion de fond sur la mission chrétienne, qui est toujours d'actualité. Son titre, Israël dans la mission chrétienne. Il est écrit par une femme théologienne, il n'y en a pas tellement, Marie-Hélène Robert, c'est une religieuse de l'Institut missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, qui est professeure de théologie à l'Université catholique de Lyon. Ce livre est paru aux éditions du Cerf dans la collection Lectio Divina à la fin 2010. Il s'agit d'abord d'un commentaire, encore un vous me direz, de l'épître de saint Paul aux Romains et principalement des chapitres 9 à 11, mais à travers une lecture axée sur les problèmes propres de la mission chrétienne, donc l'annonce de l'Évangile à toutes les nations, et plus particulièrement à Israël. En effet, le Concile Vatican II a renouvelé le regard que l'Église catholique porte sur le judaïsme. Par sa déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, où il est mentionné le lien particulier qui relie le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Et en parallèle, dans son épître aux Romains, saint Paul affirme que pour Israël, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc Marie-Hélène Robert se demande de quel ordre doit être la relation du chrétien missionnaire avec le peuple juif, puisque le judaïsme est en quelque sorte constitutif du christianisme. Or, l'Épître aux Romains discute justement du rapport entre juifs et païens convertis au Christ. Et on y trouve l'idée qui est actuellement adoptée par l'Église, c'est-à-dire celle de l'unité dans la complémentarité et dans le respect des différences. Ainsi, dans l'optique contemporaine, il ne s'agit pas tant d'exercer une mission envers les juifs que de construire ensemble un témoignage commun pour toutes les nations. Une grande partie du livre est consacrée à une relecture historique des rapports entre l'Église et Israël, avec en parallèle l'évolution des interprétations de la lettre aux Romains. Nous voyons naître progressivement dans l'histoire une nouvelle compréhension du salut universel liée à la miséricorde de Dieu, au mystère de la grâce en tout être humain. Et on voit l'évolution vers une approche plus positive de l'autre, avec un grand A, préservant sa liberté, sa spécificité, pour tendre vers une complémentarité de tous les hommes. Même si le chemin de l'Église reste unique, celle-ci comprend que la manière dont le Christ regarde l'ensemble de l'humanité lui reste mystérieuse. Et donc la mission chrétienne s'est tout autant renouvelée depuis Vatican II. Elle ne se comprend plus dans le cadre, uniquement dans le cadre d'une alliance universelle, mais une alliance qui a pris différentes formes, qui sont respectées pour elle-même. Le but ultime étant le salut de toute l'humanité, qui se construit par une complémentarité qui se déploie dans diverses directions. Cette évolution de la pensée de l'Église fonde actuellement également tout le dialogue interreligieux et l'œcuménisme. Et dans cette diversité respectée, comme Israël a reçu en premier la révélation divine, on considère à présent qu'il est erroné, irrespectueux et un peu prétentieux de vouloir évangéliser les Juifs. La mission consistant plutôt à les inviter à reconnaître dans le Christ l'accomplissement de leur propre foi et non son altération. En conclusion, je vous lis une petite citation du livre de Marie-Hélène Robert, qui est un peu un résumé. « La mission universelle de l'Église inclut l'annonce, la prière et l'engagement en faveur du salut de tous, Israël et les nations, tout en s'inclinant devant le mystère de l'élection gratuite de Dieu, celle-ci étant figurée et réalisée au plus haut point par le peuple d'Israël. » Ce livre intéressant, dont je vous rappelle le titre complet « Israël dans la mission chrétienne, lecture de Romains, chapitres 9 à 11 » de Marie-Hélène Robert, est paru aux éditions du Cerf dans la collection Lectio Divina, et vous pourrez le trouver à la bibliothèque diocésaine à Chartres, rue Saint-Aimant.
L'esprit du livre, Catherine Mann et le père Roger Willem.
Le père Willem va nous parler à présent d'un livre de Catherine Delamare, dont le titre est Thérèse d'Avila, très d'actualité puisqu'on fête les 500 ans. Thérèse d'Avila, l'oratoire et la forteresse, paru aux éditions Salvator en octobre 2014.
C'était une Amazone chez les Carmélites. Enfant rebelle, réformatrice du Carmel, fondatrice de 17 couvents, la grande mystique espagnole née il y a 500 ans, fut aussi une intrépide femme d'action. Tout est itinéraire, mouvement, action chez cette femme qui pourtant prône la clôture. Catherine de Lamarre a enseigné pendant de nombreuses années langue et civilisation espagnole en classe préparatoire aux grandes écoles. Elle est l'auteur de La femme au temps des conquistadors avec Bertrand Salard, paru chez Stock en 1992. À l'occasion du 5e centenaire de Thérèse d'Avila, ce livre qui se veut texte littéraire autant que biographie, itinéraire religieux et roman d'aventure, cet ouvrage apporte un éclairage familial à la lecture de l'œuvre thérésienne. Il retrace le cheminement spirituel de la grande mystique espagnole, fondatrice de Carmel réformé, mais aussi en parallèle le destin aventureux de ses 7 frères conquistadors. La vie de Thérèse d'Avila sera continuellement rythmée par les nouvelles de ses frères conquistadors aux Indes, jusqu'à leur retour qui bouleversera sa vie. Elle attendra leurs nouvelles, le cœur battant, car tout peut se perdre aux Indes. Comme dans les romans de chevalerie, elle et eux partagent aussi les mêmes réseaux d'influence, surtout ces grandes Espagnes qui organisent la conquête de l'autre côté de l'Atlantique et protègent les fondations monastiques en Espagne. Ce sont ces liens qui ont intéressé l'auteur de cet ouvrage originel pour ne pas être unique. Il a nécessité une 20aine d'années de travail et de recherche dans les écrits de Thérèse d'Avila, mais également dans les témoignages et biographies de ses contemporains, sans parler des chroniques des Indes relatant les aventures de ses frères. Une recherche qui s'est centrée sur 2 mondes, l'Espagne et l'Amérique latine, mais aussi 2 thèmes, l'oratoire et la forteresse. Thérèse n'a que 7 ans quand elle fait sa première fugue avec Rodrigue, son frère favori. Ils ont décidé d'aller mourir en martyr chez les Maures pour se sacrifier au nom du Christ. Ils gagnent la sortie de la ville en répétant « pour toujours ». Mais on les cherche et leur oncle Francesco les ramène à Avila. Thérèse sera punie pour avoir entraîné son frère de 4 ans son aîné, et les 2 enfants ne renoncent pas pour autant à leur idéal de sainteté. Ils édifient de petits ermitages qui s'écroulent dès la première pluie et les reconstruisent aussitôt. Plus tard, Thérèse fondera des couvents et ses frères des villes dans le Nouveau Monde. « Je n'aime ni le monde ni rien de ce qui le concerne, » dira Thérèse. « Je ne sais comment nous voulons vivre sur cette terre, » puisque tout y est si incertain. Une incertitude ressentie, disons, dès l'âge de 5 ans, au moment de la guerre des communautés de Castille, menée par les comuneros contre l'arrivée au pouvoir de Charles Quint. Quand elle a 13 ans, sa mère meurt en couche. Thérèse devient une jeune fille séduisante, amoureuse d'un de ses cousins. Elle a beaucoup de succès auprès des garçons. C'est une très très belle fille. Et son père l'envoie alors dans un couvent d'Augustine pour être plus sûr de surveiller ses aventures. Elle n'apprécie pas la vie religieuse, pas plus qu'elle n'apprécie la condition des femmes qui peuvent mourir accouchant et vivent dans des soucis d'intendance. À 17 ans, elle tombe malade, elle séjourne successivement chez son père, sa sœur et son oncle Pedro, qui lui fait découvrir la correspondance de Saint Jérôme. Son frère aîné, Hernando, part pour le Pérou. Alors en août 1535, Thérèse a 20 ans, son frère adoré, avec qui elle avait jadis fugué, Rodrigo, part à son tour pour les Indes dans l'expédition de Pedro Mendoza pour explorer l'Argentine. 3 mois plus tard, Thérèse quitte aussi sa maison paternelle. C'est sa deuxième fugue, accompagnée d'un frère plus jeune, Antonio, qui va devenir moine. Elle se réfugie au monastère de l'Incarnation, un couvent de carmélites où la règle est simple, visite au parloir. Oui, une règle très souple, les invitations à l'extérieur sont possibles. 1 an plus tard, elle prend l'habit de carmélite. Ce qui est intéressant de noter chez Thérèse, c'est précisément ces 2 mots, pour toujours. À l'âge où on guette son image dans les miroirs et où on se demande si on existe vraiment, Thérèse prit conscience de l'horreur du monde. Au sentiment de la fragilité de la vie, elle opposa son désir de toute puissance. À la pâleur de sa mère, à ses gémissements de malade, à ses propres doutes sur la cruauté des hommes, elle oppose à la force des romans de chevalerie et les bannières des combats. Comment se sentir protégé par un père rêveur qui administrait si mal ses terres? Comment vouloir ressembler à une mère alitée, éternellement souffrante, entre ses perpétuelles grossesses? Elle parlait au Christ, directement. Le Christ seul recours dans un monde incertain. Est-ce l'inquiétude ou l'exaltation religieuse qui la décidèrent à fuguer avec son frère aîné de 4 ans? Oui, il voulait gagner ce pays des morts, et finalement devenir disciple du Christ directement. C'était cela pour Thérèse tout au long de son histoire, de ses écrits nombreux, ses nombreuses lettres. Et son écrit sur le château intérieur, était indispensable de découvrir ce seul à seul avec Jésus. Jésus qui l'entraînait au-delà d'elle-même et qui lui faisait découvrir ses capacités d'amour. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, elle devenait en quelque sorte la folie de l'amour de Dieu. Une folie raisonnée, toujours maîtresse d'elle-même, Thérèse d'Avila a su tenir debout. Sa foi vigoureuse, son engagement incarnant la bonté de Dieu et ses exigences pour faire de ses communautés des lieux de quête spirituelle, d'amour fraternel et de recherche de l'essentiel de la vie pour se donner totalement à Dieu et des contemporains du Christ.
Merci Père Willem. Je vous rappelle le titre du livre « Thérèse d'Avila, l'oratoire et la forteresse » de Catherine Delamarre, paru aux éditions Salvator en octobre 2014.
Radio Grand Ciel.
Je vous présente à mon tour un deuxième livre paru tout récemment, en janvier 2015, et pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur, bien qu'il ne parle pas directement de la foi chrétienne, mais plutôt des bienfaits de la laïcité de notre République. Parce qu'ils permettent à toutes les religions d'être vécues dans la paix. Son auteur est Lydia Giroux, une jeune Française issue de l'immigration. Elle est kabyle, elle vient d'Algérie et elle est musulmane. Le titre de ce livre, « Allah est grand, la République aussi », paru aux éditions Jean-Claude Lattès, donc au tout début de cette année. Ce livre est à la fois un témoignage sur son intégration parfaitement réussie en France, où elle a pu faire de hautes études universitaires, et aussi une interpellation des Français pour leur rappeler qu'ils ont un trésor à préserver, l'héritage républicain et la laïcité. Lydia Giroux s'inquiète d'un problème qu'elle connaît bien, puisqu'elle l'a vécu de l'intérieur, celui des dérives du communautarisme et de la marginalisation de certains groupes qui ne se considèrent plus comme français et qui finissent même par lutter pour rejeter la France et le fonctionnement des institutions de la République. Elle raconte dans ce livre comment une partie des enfants des quartiers difficiles est embrigadée dans l'obscurantisme et emprunte les chemins extrémistes de l'islam radical. Et elle raconte surtout comment les droits des femmes musulmanes sont niés et à quel point leur intégration en France est difficile et leur émancipation quasi impossible. Je vous lis un très court extrait de son livre. Traverser les rues pour une jeune fille est une véritable épreuve. Quelle que soit l'heure, elle se retrouvera réduite au statut d'objet sexuel, sous le joug des prédateurs avides de sexe et de soumission. Il lui faut toujours porter des talons plats pour éventuellement pouvoir courir. Il lui faut raser les murs, courber le dos et surtout baisser les yeux, car tout contact visuel peut être interprété comme une provocation. Donc tout ça se passe dans les quartiers de la banlieue des grandes villes françaises. Notre auteur a réussi à grand-peine à gagner sa liberté, grâce aux chances, nous dit-elle, que donne l'école de la République, où la laïcité lui a permis de se dégager d'abord des idées étroites d'un islam intégriste et lui a donné sa chance pour étudier et parvenir à s'intégrer parfaitement en France, au point qu'à présent, elle milite dans des associations pour la défense des droits des femmes. Elle en a fondé une elle-même, d'ailleurs. Et surtout, elle s'est engagée en politique, où elle vient secouer les consciences qui, lui semble-t-il, perdent le goût de défendre l'héritage républicain et son idéal résumé en liberté, égalité, fraternité. Son livre veut nous rappeler la chance que nous avons et que nous n'apprécions peut-être pas suffisamment parce que nous y sommes trop habitués, entre autres pour la pratique de notre religion. Car c'est bien l'idéal de laïcité et de neutralité religieuse de l'État qui permet à toutes les confessions religieuses d'exister et de coexister pacifiquement. Et c'est au nom de cette liberté religieuse que Lydia Guirou veut interpeller les hommes politiques pour qu'ils réagissent contre la montée des violences qui vient prendre en otage, finalement, les Français issus de l'immigration, des musulmans modérés et pacifiques, pour leur imposer un ordre religieux extrémiste et violent. Elle appelle les responsables politiques à plus de courage, à moins de compromission avec ce communautarisme sectaire, et à lutter pour défendre les progrès de la civilisation qui, dit-elle, se mesure d'abord au progrès de l'égalité homme-femme. Voilà, ce livre dont je vous rappelle le titre, « Allah est grand, la République aussi », est touchant par son enthousiasme et la ferveur de l'attachement à la France de son auteur, Lydia Guirou. Il est paru en janvier 2015 aux éditions Jean-Claude Lattès. Et nous arrivons à présent à la fin de notre émission et je vous dis à très bientôt, chers auditeurs.